Monsieur Rick Stafford. Nous marchons par la foi. Je ne suis sur Facebook que très rarement. Je n'y suis que parce que je tenais à retrouver certains amis du lycée dont je voulais savoir ce qu'ils étaient devenus. Je voulais être présent pour qu'on puisse se retrouver. Cela dit, certains d'entre vous m'envoient parfois des clips vidéo ou d'autres informations depuis Facebook ou YouTube. Ainsi, cette semaine, j'ai reçu deux envois qui étaient semblables tout en présentant quelques différences. Il y avait notamment cette information à propos de Dr. Joseph Mercola. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du Dr. Mercola, un médecin qui préconise des méthodes de guérison alternatives et naturelles. De tous les sites web sur les médecines naturelles, le sien est probablement le plus populaire au monde, en jugé par le nombre de gens qui le consultent. Dès le début de la pandémie, causée par le COVID-19, il a tout de suite encouragé le port du masque. Mais, dans ce vidéoclip qu'on vient de m'envoyer, le Dr. Mercola interviewait un scientifique canadien, un physicien réputé, qui montrait que les masques n'étaient pas tellement efficaces. Il se trouve que cette personne travaille aussi pour une organisation similaire à notre groupe de défense des libertés civiles, ici aux États-Unis. Il montrait donc que les masques n'étaient pas aussi efficaces qu'on se l'imaginait. Peut-être un peu efficaces pour empêcher d'autres personnes d'être infectées, mais pas assez pour nous protéger nous-mêmes. Au début, de même qu'à la fin de son vidéoclip, le Dr. Mercola a dit « Peut-être est-ce maintenant le moment de promouvoir la désobéissance civile ». J'ai également reçu un clip vidéo de quelqu'un d'autre. Il s'agissait d'un ministre protestant du Tennessee, et laissez-moi vous le dire, il était tout feu, tout flamme, et ne mâchait pas ses mots. Il condamnait tous ces ministres qui manquaient de foi, les enjoignant de prendre exemple sur lui et de développer plus de foi. Il disait qu'il n'allait pas suivre les règles gouvernementales et qu'il n'allait pas permettre à quelqu'un de lui dire qu'il ne pouvait pas ouvrir ses églises pour y faire ce qu'ils avaient l'intention de faire. Puis il ajouta, « Si on vous empêche de le faire, vous devez dire à tous vos ministres de commencer à suivre mon exemple. » Je me disais alors, « Voilà un type qui se rebelle contre la loi de Dieu, contre le sabbat, contre les jours saints, contre la véritable nature de Jésus-Christ, contre le véritable évangile de Jésus-Christ, et il dit à tout le monde de ne pas être un protestant. C'est incroyable. Le voilà qui prône la désobéissance civile. » Note du traducteur. À ce point, M. Stafford s'est laissé emporter par ses émotions, et le voilà qui ne trouve plus les mots pour dire ce qu'il avait l'intention de dire. Et c'est alors avec une pointe d'humour qu'il demande à sa femme de le sortir d'embarras. Retour à M. Stafford. Je trouve étonnant qu'une telle attitude se manifeste à ce moment-ci. On entend de partout « c'est comme ça que je vois les choses ». J'ai raison et vous avez tort. Et puis voilà qu'ils prennent la grande route disant « Suivez-moi ». Cela me rappelle ce conte à propos de ce joueur de flûte qui arrive en ville. Il joue de la flûte et tous les enfants crédules le suivent jusqu'à leur propre destruction. Eh bien, c'est ce que nous observons dans notre société. Je suis de l'État d'Oregon et dans les années 60, nous disions « Ne faites pas de l'Oregon un État similaire à la Californie ». Hélas, voyez ce que nous sommes devenus. Portland est en feu. C'était une si belle ville. Et maintenant, c'est au tour de Seattle. Ce n'était pas ainsi qu'on veuille diminuer le budget de la police. Voilà que des voix s'élèvent pour l'éliminer. C'est insensé. C'est un manque flagrant de respect, une rébellion contre l'autorité. C'est accablant car cela vient d'un esprit qui est omniprésent, un esprit contre lequel nous ne sommes pas immunisés. Le titre de ce sermon est « Nous marchons par la foi ». Nous marchons par la foi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, définissons ce qu'est la foi. Dans Hébreux 11, verset 1, on lit « Hébreux 11, verset 1 « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Un jour, lors d'une étude biblique à Trinidad, on m'a demandé « Monsieur Stafford, comment pouvons-nous avoir la foi pour déplacer une montagne ?» À cela, j'ai répondu « C'est bien simple. Si Dieu me dit de déplacer une montagne, je le ferai. » Voyez-vous, la foi, c'est faire ce que Dieu dit de faire. Et c'est croire que Dieu sait ce qu'il fait. Il ne s'agit pas d'agir de notre propre chef. La foi, c'est d'accepter ce que Dieu nous dit de faire et d'aller de l'avant. Par ailleurs, Hébreux chapitre 11, verset 6 dit, Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » En d'autres termes, il y a un avantage à croire en Dieu. Il y a un avantage à suivre les instructions de Dieu. Cela nous est profitable. Pour ma part, après 56 ans dans l'Église, je peux vous dire ceci car je l'ai prouvé. Cela va prendre du temps, mais au fur et à mesure que vous grandirez dans la foi, vous en viendrez à dire « Waouh, ça marche !» Puis vous allez essayer cette autre chose. Et là encore, ça va marcher. Ainsi, au fil des années, vous réaliserez que vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu. 4 fois dans la Bible, tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau, il est dit très clairement ce qu'énonce Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Ainsi, considérez ce qui est dit dans Jean chapitre 4, verset 46. Il y est question de cet officier du roi dont le fils était mourant. Cet officier avait entendu parler de Jésus, et le voilà qui entreprend une marche de 7 heures, depuis Capernaüm au pays de Canaan, jusqu'à la ville de Cana en Galilée, afin d'implorer Jésus de venir guérir son fils. Sur ce, Christ lui répond « Va, ton enfant est guéri ». L'homme fait alors demi-tour, marche encore 7 heures pour rentrer chez lui. Là, ayant rencontré en chemin des gens de sa maison, il leur demande « Comment va mon enfant ?» et ceci de répondre « Oh, ton enfant a déjà été guéri hier, à 1 heure de l'après-midi. » Quand vous vivez ce genre d'expérience, votre foi grandit. C'est ça la foi. La foi, c'est d'aller de l'avant quand Dieu dit quelque chose, sachant que vous pouvez lui faire confiance et que c'est ce qui va se passer. Cela dit, mon verset clé pour aujourd'hui sera 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Beaucoup d'entre nous, peut-être même tous, ont entendu dire que cet énoncé doit être considéré comme une exhortation, un commandement ou un défi à relever. Nous avons entendu des sermons sur ce sujet. Oui, nous avons maintes fois entendu qu'il nous faut vivre par la foi et non par la vue. Il y a eu aussi des études bibliques sur ce même sujet. Et, à vrai dire, frères et sœurs, ce n'est pas faux, sauf que ce n'est pas ce que dit ce verset. En effet, si vous retournez à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1, vous constaterez que Paul parlait de chrétiens vivant dans une tente physique, un corps humain. Bien sûr, nous attendons tous avec impatience le moment de notre résurrection, lorsque nous recevrons ce corps spirituel qui sera l'ouvrage de Dieu. Et Paul continue dans la même veine jusqu'à ce qu'il arrive au verset 7, qui joue en quelque sorte le rôle d'une parenthèse, histoire de clarifier un point important. Comprenez-vous à quoi il veut en venir lorsqu'il dit qu'en tant que chrétiens, nous marchons par la foi? Ce n'est pas que nous devons le faire ou que nous allons le faire. Le fait est que nous marchons déjà par la foi. Et il est vraiment très important de le comprendre. Je pourrais beaucoup élaborer sur ce thème, mais je ne vais pas le faire, car depuis un certain temps, la tendance a été de réduire la durée de nos sermons. Il fut un temps où ceux-ci duraient parfois plus de 2 heures, puis on a réduit leur longueur à 1h30, puis à 1h15. Enfin, même avant l'arrivée de cette pandémie, on nous avait recommandé de ne pas dépasser 1 heure. Et c'est pourquoi, dans un contexte où nous voulons réduire notre exposition au virus, je vais même tâcher de limiter le mien entre 45 et 50 minutes. Je vais donc me contenter de vous exposer 12 façons qui montrent que nous vivons déjà par la foi aujourd'hui. Voici la première. Lorsque nous nous repentons et que nous nous faisons baptiser, nous faisons acte de foi. Acte 2, verset 38 nous dit de nous repentir et d'être baptisés pour le pardon de nos péchés, afin que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Si nous avons été baptisés, et si nous nous sommes repentis, la foi se traduit par l'assurance que tous nos péchés ont été effacés. Toutes les choses stupides et idiotes que nous avons faites, en enfreignant la loi de Dieu, et toute la honte et la culpabilité qui en résultent, c'est parti, c'est lavé, nous sommes propres. Nous n'avons pas besoin de revenir en arrière et de ressasser sans cesse les choses du passé. Nous avons un nouveau départ. La foi consiste à croire en cela. Ainsi, lorsque nous avons fait ce que Dieu nous demande, que nous nous sommes repentis et que nous avons été baptisés, nous repartons à neuf. Aucune preuve de cela ne nous est fournie. Dieu l'a dit et nous le croyons. C'est ça la foi. Et voici la deuxième. Vous vivrez par la foi quand on vous aura imposé les mains. Vous savez, on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu au moment du baptême. Quantité de passages y réfèrent clairement, et Actes chapitre 19 en est un que j'utilise fréquemment. Dans Actes chapitre 8, il est question de Simon, encore appelé Simon le magicien. Ce dernier avait remarqué que c'était par l'imposition des mains qu'on pouvait recevoir l'Esprit Saint. Oh, il avait été baptisé. Beaucoup de gens veulent se faire baptiser. Et vous savez, presque tous les membres potentiels à qui je rends visite vont aborder le sujet du baptême. Et certaines de ces personnes, lorsque vous leur parlez, vont dire qu'elles veulent être baptisées parce que, selon elles, Dieu le leur demande. J'ai été ébranlé la première fois que j'ai entendu cela. Ce n'est pas faire preuve d'une mauvaise attitude que de demander à être baptisé. Mais comprenez bien qu'on ne reçoit pas l'Esprit de Dieu lors du baptême. Non, on ne recevra l'Esprit de Dieu qu'après avoir reçu l'imposition des mains. Simon le magicien avait une mauvaise attitude. Il était à la tête d'une entreprise florissante et ne voulait pas donner l'impression qu'il se soumettait à l'autorité de ses apôtres de Christ. C'est pourquoi il leur a proposé de les payer pour recevoir le Saint-Esprit, évitant ainsi de devoir se faire imposer les mains par quelqu'un que Jésus-Christ avait désigné pour accomplir un tel acte. Il ne voulait pas se plier, il voulait en faire à sa tête, et c'est pourquoi les apôtres ne lui ont pas imposé les mains. C'est que, lorsque vous vous faites imposer les mains, vous placez votre confiance en Jésus-Christ. Vous avez foi qu'il va prendre soin de vous à travers son Église. Comprenez que ce n'est pas un chauffeur de taxi qui vous impose les mains, ou un voisin, ou un parent. Non, ce sera le rôle d'un ministre fidèle de Jésus-Christ de vous imposer les mains, lorsqu'il verra que votre attitude n'est pas semblable à celle de Simon le magicien, et que vous faites littéralement confiance à Dieu pour prendre soin de vous par l'intermédiaire de son Église. Cela correspondra à un acte de foi de votre part, qui vous accompagnera pour le reste de votre vie. Si vous oubliez cela, vous oubliez la raison première pour laquelle vous avez l'Esprit de Dieu. Je pourrais continuer. Il est très clair que, dans Hébreux 6, versets 1 et 2, il est question de l'imposition des mains, l'une des doctrines fondamentales de l'Église. Nous ne devons pas l'oublier, mais au contraire nous appuyer sur elle et aller de l'avant. Par ailleurs, Hébreux 13, verset 17, dit que nous devons nous soumettre à ceux qui sont désignés pour prendre soin de nous et nous aider, car le ministère sera tenu responsable. Oui, l'Église est responsable de vous. Troisième façon de marcher par la foi, par la prière et par l'étude de la Bible. Chaque jour, lorsque vous priez, lorsque vous vous agenouillez, dans la plupart des cas, vous priez en ayant foi que Dieu se soucie de vous, qu'il vous écoute et qu'il tiendra compte de votre prière. C'est une démarche de foi. Il en est de même de votre étude de la Bible. Certains diront peut-être, pourquoi étudier ce livre encore et encore? Vous avez probablement lu et étudié la Bible à maintes reprises. Cette année, je veux la relire avec une nouvelle édition, en la marquant, et comme je me suis assigné la tâche de passer à travers 3 ou 4 pages chaque jour, j'atteindrai mon objectif d'ici à la fin de cette année. Ma femme se demande parfois pourquoi je ne viens pas me coucher. Alors je lui réponds que j'ai encore mes 3 ou 4 pages de lecture. Ça me privera un peu de sommeil, mais j'y tiens et je vais y arriver. Pourquoi est-ce que je fais cela? Parce que Romains chapitre 10, verset 17 dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je crois que plus je peux avoir l'Esprit de Dieu en moi, mieux je me porterai et plus je serai capable de servir le peuple de Dieu. Donc, la prière et l'étude de la Bible sont une démarche de foi, et c'est ce que vous faites. Matthieu chapitre 5 parle des béatitudes, de ces bénédictions dont il a été question dans la sermonnette, notamment de la nécessité de faire preuve de miséricorde. Pourquoi voudriez-vous être miséricordieux? Qu'est-ce que ça va vous apporter? De même, pourquoi voulez-vous être humble? Pourquoi voulez-vous être contrit? Pourquoi voulez-vous faire toutes ces choses? Oui, pourquoi voulez-vous rechercher la justice? Pourquoi tenez-vous tant à suivre la voie de Dieu? Tout est une question de foi. Parce que Dieu l'a dit, nous allons le faire. Nous plaçons notre confiance en Dieu. Nous avons confiance qu'il sait ce qui tournera à notre avantage. Nous y croyons. Nous ne le comprenons pas toujours au départ, mais en rétrospective, nous réalisons qu'il avait raison. Je dois vous confier, frères et sœurs, que j'ai fait 2 grosses erreurs depuis que je suis dans l'Église. En fait, plus que cela. L'une d'elles était de nature commerciale. J'étais jadis un vendeur hors pair, mais je ne pouvais pas vendre quelque chose si je n'avais pas entièrement confiance en sa valeur. Je vivais alors en Nouvelle-Zélande, où je travaillais pour une société qui vendait des franchises pour un programme d'apprentissage assisté par ordinateur. C'était avant que ce programme ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. Je me suis alors mis à recruter des gens qui ont dépensé $10,000 pour prendre une telle franchise. Et il s'est avéré que le tout était une arnaque. Le type en charge de cette société, après qu'il eut empoché l'argent que je recevais, a alors fermé l'entreprise et s'est enfui. Ça m'a vraiment fait mal. Mais cela m'a enseigné une grande leçon, à savoir que je pouvais être sincèrement dans l'erreur. J'ai également fait une grosse erreur dans l'Église. J'ai une fois pris une décision motivée par mes émotions, et j'ai essayé de la soutenir par la logique. Pendant un temps, je pensais m'être ressaisi, car j'étais toujours dans une Église de Dieu, mais j'ai fini par me rendre compte qu'on n'y pratiquait pas le gouvernement de Dieu. Quand mon zèle à accomplir l'œuvre de Dieu finit par s'estomper, il m'a bien fallu reconnaître que j'avais fait fausse route. J'ai alors rebroussé chemin et ai avoué à Dr. Meredith que j'avais fait une grosse erreur. Savez-vous ce qu'il m'a répondu? Je parie que cette expérience vous a beaucoup appris. Effectivement, j'ai non seulement beaucoup appris sur les autres, mais aussi sur moi-même. À savoir que je peux faire une grosse erreur en toute sincérité quand je me fie uniquement à moi-même. Une 4e façon de marcher par la foi, c'est d'observer le sabbat et la fête des tabernacles, toutes 2 des convocations commandées. Je n'ai jamais compris l'Église adventiste qui observe le sabbat, mais pas les jours saints. Pourtant, Jésus-Christ l'a fait. j'ai un copain avec qui je joue au golf, et il m'a demandé un jour pourquoi j'observe la fête, pourquoi j'observe le sabbat, et pourquoi je ne mange pas de porc. Je lui ai répondu tout simplement, parce que c'est ce que Jésus faisait. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Jésus-Christ a-t-il célébré la fête? Oui. Les apôtres l'ont-ils fait? Oui. Alors, pourquoi est-ce que je célèbre la fête? Parce que eux l'ont fait. Et comme je suis un chrétien, je vais donc vivre comme ils ont vécu. C'est ça la foi. J'en suis rendu à ma 56e fête des tabernacles. Le temps a passé si vite. Hébreux 10, verset 25 dit, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Pourquoi quelqu'un voudrait-il refuser de célébrer la fête? Oh, je sais qu'il peut arriver qu'on soit malade. Il peut y avoir des raisons légitimes de ne pas aller à la fête. Normalement, on consultera le ministère avant de prendre une telle décision. Par contre, à mes yeux, le fait de dire de manière désinvolte « Je ne vais pas me rendre à l'assemblée commandée parce que je n'ai pas envie d'y aller », cela n'a aucun sens. Vivre par la foi, c'est aller de l'avant et sortir de sa zone de confort. Une cinquième façon de marcher par la foi, c'est de pratiquer la dîme. Il en est question dans Malachie chapitre 3 verset 10, où Dieu nous lance le défi « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve ». Il nous dit en essence « Faites ce que je dis, testez-le et voyez comment cela fonctionne pour vous ». Il y a 56 ans, je me suis également mis à fixer un pourcentage pour mes offrandes, car les offrandes doivent refléter la façon dont nous avons été bénis. Je pensais devoir agir ainsi, fixer un pourcentage. Entre-temps, avec le développement des services bancaires automatiques, c'est la banque qui le fait pour moi automatiquement. J'ai donc pris cette décision une fois pour toutes, il y a 56 ans. Payer la dîme et donner des offrandes, c'est donc marcher par la foi. Une sixième façon de le faire, c'est lorsque nous demandons une onction. Vous savez, quand vous êtes malade, vous pourriez avoir tendance à croire qu'il suffit de s'adresser à Dieu personnellement, et c'est ce que je faisais à mes débuts. Puis, j'ai demandé à M. Ames ce qu'il en pensait. Il m'a alors fait remarquer ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 5, au verset 14 et 15. Jacques, chapitre 5, verset 14 et 15. « Quelqu'un parmi vous est-il malade ? Qu'il appelle les anciens de l'Église, et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Ainsi, lorsque vous vous blessez la main avec une scie, ou que vous êtes allongé sur l'autoroute, vous allez certes demander à Dieu d'intervenir, mais vous allez aussi demander d'être oint par un de ses ministres. Notez cependant que la réponse de Dieu peut être immédiate, mais elle peut aussi arriver plus tard. Certains d'entre vous savent que je ne pensais pas pouvoir être ici cet été. En fait, je ne savais même pas si j'arriverais à mon 75e anniversaire, qui arrive ce mois-ci. Mais il semble maintenant que je vais y arriver, car Dieu est intervenu et m'a redonné de l'énergie. Oui, à présent, mon énergie est revenue. Les médecins n'en reviennent pas. Ils ont examiné mon sang et ont dit que je ne devrais pas me sentir bien. Je suis désolé, mais je me sens bien. C'est en partie grâce à ma femme qui prend bien soin de moi. D'ailleurs, les membres de notre congrégation ici à Baytown ont insisté pour qu'elle me surveille. Elle fait tout ce qu'elle peut pour m'empêcher de faire des choses qui ne sont peut-être pas indiquées pour moi, ce qui ne fait pas toujours mon affaire. Septième façon de marcher par la foi, se faire conseiller avant le mariage, et même après. Pourquoi se faire conseiller avant de se marier? C'est pourtant là ce que l'Église recommande pour que, dans l'euphorie du moment, nous ne nous laissions pas emporter par nos émotions et que notre cœur ne nous rende pas aveugles à certaines choses. C'est marcher par la foi que d'agir selon les recommandations de Dieu. Le fait de prendre la décision de se marier constitue une huitième façon de marcher par la foi. Lorsque deux êtres humains, qui sont souvent si différents, décident de se marier, vous pouvez prévoir qu'ils hériteront de multiples occasions de se pardonner l'un l'autre. Le mariage est une démarche de foi, du moins si vous le faites à la manière de Dieu, ce qui vous permettra de grandir. C'est que votre amour doit grandir. Oui, vous grandirez bien au-delà de ce que vous étiez au début de votre mariage, parce que Dieu vous bénira si vous progressez dans la foi et que vous vous pardonnez mutuellement comme le Christ vous a pardonné. Neuvième façon de marcher par la foi, votre attitude face à la mort. 1 Thessaloniciens 4, verset 13 dit « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance ». Vous savez, la mort fait partie intégrante de la vie. On doit s'y attendre. En nous donnant la vie, Dieu a dit « D'accord, je vais vous donner la vie, mais elle aura une date d'expiration, et je veux voir ce que vous en ferez, pour savoir si je peux vous donner la vie éternelle ou non. » C'est aussi simple que cela. Votre vie ne se prolongera pas éternellement. C'est d'ailleurs pourquoi Actes chapitre 24, verset 15, parle d'une résurrection des morts. Savoir cela et y croire est, là encore, une question de foi. La dixième façon de marcher par la foi se traduira par la nourriture que nous mangerons. Certains voudront savoir quel rapport ceci a-t-il avec la foi. Eh bien, comme vous le savez, selon les scientifiques, ce qui est bon aujourd'hui peut ne pas être considéré bon demain. Ainsi, il fut un temps où l'on disait que le chou frisé était bon. Maintenant, on prétend que le chou frisé est l'une des pires choses que l'on puisse manger, à moins qu'il ne soit biologique. En effet, on s'est rendu compte qu'il contient en fait plus de pesticides et d'herbicides que n'importe quel autre légume, à moins qu'il ne soit biologique. Et qu'en est-il des œufs? Jadis, on disait qu'il faut les proscrire, parce qu'ils sont source de cholestérol. À présent, on nous dit qu'ils sont bons pour nous. Mais pourquoi s'intéresser à tout cela? Parce que 1 Corinthiens chapitre 3, versets 16 et 17 mentionne que nous sommes le temple du Saint-Esprit et que Dieu nous a donné ce corps pour que nous en prenions soin. Il nous observe pour voir comment nous allons suivre ses recommandations. Lisons-le. 1 Corinthiens 3, versets 16 et 17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Je me suis intéressé à la santé et à la nutrition depuis l'âge de 20 ans, donc depuis 55 ans, et j'ai étudié de nombreux types de régimes. J'en suis arrivé à la conclusion que le meilleur régime, à moins d'avoir un problème de santé particulier, c'est le régime suivi par Jésus. Nous l'appelons maintenant le régime méditerranéen, exception faite des palourdes et des huîtres qu'ils y mettent. Oui, Christ le savait depuis le début et il nous a donné l'exemple à suivre. Onzième façon de marcher par la foi. Rechercher la paix d'esprit. Voyons ce que Dieu nous recommande dans Philippiens chapitre 4 au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Oui, le fait d'avoir un esprit joyeux, c'est bon pour notre santé. Mon esprit est naturellement porté vers le côté humoristique des choses. Mais il a fallu pas moins de 7 ans à nos frères et sœurs de Houston pour s'habituer à mon sens de l'humour. Ma femme a dit un jour que je ne suis sérieux que lorsque je suis ici, derrière ce lutrin. La vie nous réserve tant de situations comiques. Profitons-en pour nous en réjouir. Le verset 6 enchaîne disant, Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Entre nous, je dois le reconnaître, j'ai éprouvé beaucoup de stress hier. Lorsqu'on m'a invité à contribuer ce petit discours, pour l'arrière-scène de l'œuvre 2021, d'autant plus que cela venait s'ajouter à d'autres tâches, comme celle d'aller à Baytown pour réserver une salle, ainsi que d'autres affaires qui s'étaient présentées. Mais cela ne m'a pas empêché de donner ma petite contribution, selon la recommandation qui suit. Verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui, la paix de Dieu. Réalisez-vous que les gens autour de nous sont profondément perturbés? On entend parler de suicide, d'anxiété, de frustration, de peur et de colère. C'est en train d'arriver à un point critique, et ça ne fera qu'empirer. Simultanément, il y a des gens qui sont totalement inconscients de la réalité, et qui prennent tout ça à la légère, disant que cela s'est déjà produit auparavant. Eh bien non, ceux qui parlent ainsi sont aveugles. Cela ne s'est pas produit jadis. Un de mes amis, qui n'est pas membre de l'Église, m'a dit récemment à quel point il était choyé. Il touche 3 fonds de pension et sa maison est payée. Il ne cesse de répéter que la vie ne pourrait pas être meilleure que ça. Je me suis dit alors, comment peut-on à ce point être insensible et aveugle à la condition du reste de la population. Il n'a aucune idée de ce qui se passe dans la vie des autres. Espérons qu'il ne connaîtra pas un jour le même sort. Si cela devait lui arriver un jour, et il est fort probable qu'il en sera ainsi, sera-t-il assez fort pour le supporter? La paix d'esprit, c'est une question de foi. Nous marchons dans la foi quand nous vivons à la manière de Dieu et que nous avons la paix d'esprit. Cela ne se produit pas du jour au lendemain. Il se peut que vous ayez à travailler pendant le reste de vos jours, à changer vos habitudes de vie. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas tant de savoir quand nous atteindrons la ligne d'arrivée. Il cherche plutôt à voir la direction que nous prenons depuis notre point de départ. Certaines personnes sont loin d'avoir au départ les mêmes bases solides que d'autres avaient. Dieu veut voir si vous êtes dans la bonne direction, et il faut avoir de la foi pour le faire à la manière de Dieu. Mon 12e point concerne la vie chrétienne. Il s'agit de la façon dont nous travaillons, dont nous jouons, et des mots que nous utilisons. Tout ce que nous faisons est une œuvre de foi. Il nous faut croire à ce que dit Jean, chapitre 10, au verset 10, à savoir que Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Éphésiens chapitre 5 est aussi un chapitre très révélateur. Éphésiens 5, versets 16 et 17. « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Cela me rappelle cette remarque que fit mon fils, il y a bien des années, après avoir entendu un sermon. Il avait dit, « Papa, c'était un bon sermon, mais en quoi cela me concerne-t-il ? » Sa réflexion m'a marqué, et j'ai alors réalisé que nous devons non seulement enseigner la parole de Dieu, mais il nous faut aussi la rendre applicable à la vie d'aujourd'hui, car nous devons en faire notre mode de vie. Cela ne doit pas se résumer à une philosophie, à une croyance. Nous devons en faire notre mode de vie. Qu'est-ce qui rend l'exercice de foi si difficile pour certaines personnes? C'est parce que, pour vivre par la foi, il faut du courage et de la force. Dans un petit discours que j'ai prononcé récemment, discours qui sera peut-être diffusé dans la vidéo « L'arrière-scène de l'œuvre 2021 », je parlais de nos frères des Caraïbes et de ce qu'ils traversent actuellement et comment ils se sont serrés les coudes pour s'entraider, notamment en se partageant de la nourriture. Ils se sont vraiment beaucoup entraidés. À la fin de mon petit discours, j'ai mentionné à quel point cela me rappelait l'époque où je pratiquais la lutte au lycée. Durant un tel match, lorsque vous vous retrouviez plaqué au sol, le regard tourné vers le haut, vous pouviez voir ce slogan écrit en grosses lettres sur le plafond. « Quand tout va mal, seuls les durs persévèrent. » Nous vivons présentement une telle situation. En effet, nous vivons actuellement des moments difficiles, et ils vont l'être encore plus bientôt. Et seuls les fidèles resteront debout et en sortiront renforcés. Nous allons grandir dans la foi parce que nous marchons dans la foi. Mais pour y parvenir, il nous faut, comme le dirait Dr. Meredith, nous soumettre à Dieu inconditionnellement. C'est la différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus mentionné dans Actes chapitre 19. Cela implique une soumission totale et inconditionnelle. Fini cette tendance à vouloir imposer son opinion et sa façon de voir les choses. On s'en remettra entièrement à Jésus-Christ qui prend soin de nous. Celui qui adopte ce principe de vie récoltera d'énormes bénédictions. Considérons l'exemple d'Abraham. Pourquoi a-t-il fallu à Dieu tant de décennies avant d'en arriver à dire ce que nous lisons dans Genèse chapitre 22 au verset 12? Genèse 22, verset 12. « Je sais maintenant que je peux te faire confiance. Il est un fait que Dieu connaît chacune de nos pensées, comme je l'ai expliqué plus en détail dans une étude biblique consacrée à ce thème. Comprenez bien que nos pensées ne sont pas des péchés, tant que vous ne les laissez pas prendre racine en vous, auquel cas elles vont produire des sentiments et des émotions. Ainsi, lorsque vous vous surprendrez à éprouver une mauvaise émotion, ce sera le moment de changer votre façon de penser, et il vous sera possible de le faire avec l'aide de Dieu. Soyez donc vigilants et ne succombez pas à de telles pensées. Si vous deviez néanmoins voir naître en vous certains sentiments ou certaines émotions, la colère, la rage, la jalousie, la convoitise ou d'autres choses répréhensibles, avant de passer aux actes, il y aura là un intervalle de temps où l'Esprit de Dieu pourra intervenir. J'ai mentionné dans mon étude biblique que lorsque j'ai une mauvaise pensée, je me dis « Oh, je ne veux pas de cette pensée. C'est une mauvaise pensée. Vous pouvez alors la faire sortir. Et ce n'est pas un péché d'avoir une mauvaise pensée. Cependant, si vous lui permettez de prendre racine et de progresser, elle peut devenir un péché, parce qu'elle affectera vos sentiments, vos émotions, et ensuite vos actions. Tout cela est très complexe. C'est pourquoi Dieu a mis tant d'années avant de pouvoir dire au sujet d'Abraham, « Bon, maintenant je sais ce que tu pensais. Tu ne voulais pas le faire, et tu as pensé à ne pas le faire, mais tu m'as fait confiance, alors tu l'as fait. Maintenant, je sais que je peux te faire confiance. » C'est ce que Dieu fait avec vous et moi. Il veut savoir s'il peut nous faire confiance. Vous pouvez poursuivre votre recherche et examiner la vie de Joseph. Vous pouvez également lire l'histoire de Daniel et de ses trois amis. Tous ces individus ont été éprouvés et testés. Tenez, prenez le cas de Noé et considérez sa vie. Tout allait bien pour lui, jusqu'à ce que Dieu lui demande de se lancer dans la construction de cette arche. Le voilà qui s'objecte. « Mais pourquoi ? Je suis loin de l'océan ici. » Mais Dieu insista, disant, « Fais ce que je dis. » Alors Noé dit, « C'est bien, Seigneur. Je ne comprends pas le bien fondé de la chose, mais je vais le faire. » Et il l'a fait. C'est ce qui arrive à la plupart d'entre nous. Plus tard, on regarde en arrière et on se dit, « Oh, maintenant je comprends. » C'est la même chose qui se passera lors de l'élection d'un nouveau président. Nous avons tous nos opinions et nos attentes, mais seul Dieu sait qui il veut à ce poste, qui va accélérer ou ralentir le déroulement des choses qu'il a en tête. J'aime ce que M. Weston a dit, à savoir qu'il ne lui viendrait jamais à l'idée de voter contre ce que Dieu veut. Cela ne signifie pas que nous sommes indifférents à ce qui se passe autour de nous. Le fait est que nous souffrons en voyant ce qui se passe. J'aime l'Oregon, mais je ne peux plus y vivre. Même si j'avais le choix d'y vivre, je resterais ici, parce que, pour l'instant, j'ai encore l'impression d'être en Amérique. Je suppose que même cela pourrait changer un jour, mais pour l'instant, j'apprécie beaucoup le Texas. Nous observons quantité de choses autour de nous. Dieu éprouve les gens en les soumettant à divers tests. Ce mouvement de réhabilitation qui parcourt notre société a apporté de nombreux principes salutaires. La Société des alcooliques anonymes s'est dotée d'un slogan aussi bref qu'évocateur. Laissez faire, laissez agir Dieu. Il est si difficile pour les êtres humains de lâcher prise. Nous voulons rester en contrôle. Nous ne voulons pas sortir de notre zone de confort. J'ai parlé à des personnes qui étaient dans le club d'orateurs et qui ont été sévèrement corrigées. Leur réaction ? C'est fini, je n'irai jamais plus au club d'orateurs. Je crois avoir partagé avec vous mon histoire à propos de Betty Palmer. En quatrième année, je sortais avec Betty Palmer. Elle était l'amour de ma vie. Mais voilà que l'année suivante, Bonnie Burkhart entrait dans le décor. Celle-ci m'a alors informé sans aucun ménagement que Betty voulait ravoir son collier. C'était plutôt blessant, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas tout. Figurez-vous que, le jour suivant, je remarquai que c'était Rodney Lee qui portait à présent le collier de Betty. Alors là, j'avoue que j'étais effondré, et j'ai dit, « C'est fini, j'en ai fini avec les femmes !» Frères et sœurs, comprenez que Dieu veut que vous sortiez de votre zone de confort. Mais pour y parvenir, vous devrez apprendre à passer l'éponge. Dieu veut voir que nous sommes renforcés par nos épreuves, que nous n'allons pas faiblir. Oui, nous allons devenir plus forts en grandissant dans la foi. Plus tard, j'ai encore eu une autre petite amie. À elle, je pouvais accorder toute ma confiance, car elle avait 84 ans. Oui, j'avais besoin d'une amie là-bas, car j'étais seul, avec la responsabilité de 6 églises et aucun ancien local pour m'aider. Il est vrai que je disposais aussi d'une super équipe de diacres, et ils étaient formidables. Mais Mamie Krautzer était vraiment une véritable amie, et un jour, après que j'eus traversé diverses épreuves, elle m'a fait cette déclaration. Elle a dit, « Si tu penses que Jésus-Christ ne peut pas diriger son Église, alors tu ne connais pas Jésus-Christ. » Parlons maintenant un peu de l'église de l'ère de Philadelphie mentionnée dans Apocalypse chapitre 3. Il y avait essentiellement deux choses qui distinguaient cette ère de toutes les autres ères de l'église de Dieu. Premièrement, ils avaient un réel zèle pour aller de l'avant lorsque Dieu leur ouvrait une porte. Et deuxièmement, ils avaient la clé de David. La clé de David, comme nous le disons souvent, cela a rapport au gouvernement dans l'église. Si vous lisez le récit de David, vous remarquerez quelque chose de remarquable chez lui. Il faisait entièrement confiance à Dieu pour qu'il s'occupe de ses affaires. Il ne ressentait aucun besoin de prendre les choses en main. Il n'avait pas besoin de l'appui de tout un groupe démocratique pour dire « Nous ne sommes pas les seuls à ressentir cela ». C'était le stratagème qu'employait Corée. Il n'était pas question de doctrine. Corée et ses partisans n'appréciaient tout simplement pas la façon dont Moïse administrait les choses. Nous n'avons pas ce problème ici dans les Caraïbes. Nos gens sont beaucoup plus dociles que les Américains ou les Canadiens. Cependant, nous sommes un peuple qui ne mâche pas ses mots et qui va partager ses opinions, que vous vouliez les entendre ou non. Et ce n'est pas une mauvaise chose si vous choisissez une personne de confiance qui a une tête sur les épaules et à qui vous pouvez parler honnêtement et ouvertement, ce qui vous permettra de vous défouler. Franchement, avoir une ou deux personnes comme ça est vraiment très bénéfique, car il ne serait pas bon de parler ouvertement à d'autres personnes si cela pouvait devenir une pierre d'achoppement pour elles. Même si, pour vous, cela peut avoir un effet apaisant, pour eux, cela pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Christ n'a-t-il pas dit qu'il valait mieux avoir une meule de moulin placée autour du cou que de mettre une pierre d'achoppement devant l'un de ses petits? Comprenez-moi bien, je ne vous dis pas de réprimer toute émotion si vous sentez la pression monter en vous. J'apprécie M. Dever, il peut m'appeler et je le connais et lui fais confiance. Je connais aussi Joe Bueno et peux lui faire confiance également. J'ai aussi mon groupe de leadership avancé. Ils sont des gens ouverts, honnêtes et directs qui savent exprimer leurs opinions et nous les écoutons et les laissons parler et cela nous est profitable. Il faut avoir ce genre d'ouverture, mais il faut être très prudent, sinon on peut s'attirer beaucoup d'ennuis. J'aime ce que M. Dever m'a écrit un jour. J'ai passé la plus grande partie de ma vie à regretter les 10 dernières minutes de ce que j'ai dit. Ce sont des choses qui arrivent, car nous sommes des êtres humains. Oui, nous sommes Américains et avons le droit d'exprimer notre opinion, même si personne ne veut l'entendre, à moins que celle-ci ne rejoigne la leur. Mais nous allons l'exprimer quand même. Ainsi, beaucoup de gens vont utiliser une béquille spirituelle. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, ils vont rechercher d'autres personnes sur qui s'appuyer. Ils vont parfois aussi consulter des livres de personnes ressources, à moins qu'ils ne se réfugient dans l'alcool, la marijuana ou d'autres substances hallucinogènes. D'autres, enfin, vont se laisser accaparer par les distractions de ce monde, pour ne pas avoir à se concentrer sur ce qui se passe. Comme si cela ne suffisait pas, certains feront appel à l'ultime béquille du raisonnement charnel. C'est comme ça que je vois les choses. Voyons Matthieu 14, verset 22, qui nous relate cet épisode où Jésus-Christ avait invité Pierre à le rejoindre en marchant sur les eaux. Pierre, impétueux comme toujours, avait aussitôt accepté. Le voilà donc qui sort du bateau et qui commence à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Chemin faisant, alors qu'il considérait le caractère insolite de son action, le voilà qui ne tarde pas à s'enfoncer. Vous voyez, il s'en était remis à son propre raisonnement charnel. Combien de fois n'ai-je pas eu affaire à des personnes qui étaient venues me voir en disant « Si ça continue comme ça, voilà ce qui va arriver. » Je leur répondais alors « Oh, êtes-vous prophète ?» C'est que, voyez-vous, ils vont faire des projections comme s'ils savaient ce qui va se passer, alors qu'ils n'en ont pas la moindre idée. Après tout, ils ne sont pas prophètes ou prophétesses. J'ai eu une dame parmi mes congrégations qui faisait cela, et lorsque je lui ai dit cela, elle a quitté l'église. Heureusement qu'environ un an et demi plus tard, elle est revenue en avouant qu'elle avait eu tort. Oui, elle reconnaissait qu'elle avait eu tort. Parfois, il nous arrivera de commettre des erreurs et nous en tirerons des leçons. C'est bien, mais il ne faudrait pas que cela cause la chute d'autres membres. Le raisonnement humain prend le dessus, soutenu par les émotions. La plupart des décisions que les gens vont prendre auront une base émotive et seront ensuite soutenus par leur raisonnement. L'émotion viendra en premier lieu. Lorsque vous observez une voiture, vous pourriez vous demander qui en a le contrôle, Le passager ou le conducteur? Je plaisante, évidemment. Les nouvelles voitures ici aux États-Unis ont maintenant un système d'alarme qui se déclenche dès que quelqu'un se trouvera dans votre angle mort. Mais j'avais déjà un tel système d'alarme quand je vivais en Angleterre. C'était ma femme. Oui, elle ne cessait de me lancer des cris d'alarme lorsque je conduisais. Notez que cela ne m'avait pas pour autant empêché de garder le contrôle de ma voiture. C'est là une question qu'il convient de se poser. Qui conduit notre vie? J'aime beaucoup la réaction qu'un de mes amis a eue face à une personne qui lui tenait à cœur. Une personne qui était en train de s'énerver à propos de quelque chose. Il lui a alors demandé « Écoute, où vas-tu chercher ces idées ?» C'était là une très bonne question. « Oui, d'où tirons-nous nos idées ? Qui mène notre vie ? Espérons que vous en arriverez au point où vous réaliserez que vous avez remis votre vie entre les mains de Jésus-Christ. Ce n'est peut-être pas facile, mais c'est ce qui mène à la liberté et à la paix. Vous n'aurez plus besoin d'être irrité. Dieu est en contrôle. Il va s'occuper des choses vous concernant. Il le fera en temps et lieu, et pas nécessairement quand vous l'aurez prévu, et de la façon que vous auriez imaginé. Mais, en rétrospective, vous en arriverez à la conclusion que sa manière d'agir était à votre avantage. Nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes. Il nous faut rester proches de Dieu pour pouvoir le faire. Nous devons considérer ses promesses et nous souvenir de cette époque où on nous avait imposé les mains et combien nous nous étions alors confiants en lui. C'est un exercice auquel il convient de se livrer quotidiennement. C'est comme pour la miséricorde, qu'il nous faut aussi exercer chaque jour, comme la sermonnette nous y exhortait. Voyons aussi Luc chapitre 22, verset 42, où Christ se trouve confronté à la plus grande épreuve de sa vie. Comme il était un prophète, il savait parfaitement ce qu'il attendait, et c'est pourquoi nous le voyons qui dit, Luc 22, verset 42, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Frères et sœurs, nous nous dirigeons rapidement vers cette époque où il nous faudra considérer ces paroles de Christ qu'on nous a lues lors de notre baptême. Luc 14, verset 26 « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Et il y en a dans cette salle et ailleurs qui diront « Si tu continues comme ça, tu ne pourras plus être mon ami » ou « Je vais te quitter » et d'autres menaces de ce genre. Ces jours arrivent et vous allez devoir revenir en arrière et vous rappeler que vous avez pris l'engagement au moment de votre baptême que vous ferez entièrement confiance à Jésus-Christ, que vous allez être fort, que vous allez être courageux et que vous allez faire tout ce que vous pourrez pour aider et encourager les autres à rester fidèles, parce que nous marchons chaque jour par la foi. »